France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les aidants, c'est vous qui avez un parent devenu vieux qui n'a plus toute son autonomie, dont il faut surveiller parfois les advenus et surtout les médicaments. C'est vous qui avez un enfant qui a besoin de soins très réguliers. Les aidants, c'est vous qui devez emmener votre mari pour une dialyse 3 fois par semaine. C'est vous qui devez vous occuper de votre fils qui vient d'avoir un accident, qui va devoir rester un bout de temps sur un lit médicalisé. Les aidants, c'est moi peut-être un jour, et vous aussi, évidemment, qui nous écoutez. 11 millions d'aidants en France qui ont leur journée, c'est le 6 octobre, à la fin de cette semaine, tant mieux, parce que qui sait, et notamment dans le personnel soignant, ce que fait réellement un aidant, ce qui se passe vraiment à la sortie de l'hôpital. Quels employeurs le savent aussi? Qui les forme, ces aidants, qui leur permet de souffler quand la charge est trop lourde, physiquement et émotionnellement? Parce que de quoi on parle? On parle de lever un patient, on parle de placer un bassin, on parle de laver un adulte handicapé, on parle de gérer une urgence. Personne ne fait ça intuitivement. Si tous les patients aidés par leurs proches étaient en fait hospitalisés, la sécurité sociale, croyez-moi, aurait déjà explosé. Récemment, les aidants ont reçu un congé rémunéré, un peu sur le modèle des enfants malades pour faire vite, on y reviendra. C'est un début, c'est pas beaucoup. Et puisque pour les aidants, c'est bien d'avoir une reconnaissance et aussi une visibilité, eh bien, parlons-en, on est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pascal, c'est vous le premier, bonsoir.
Bonsoir écoute. Fabienne, bonsoir à vos invités, et merci bonsoir. De prendre mon appel. Donc nous avons un fils avec mon épouse âgée de 21 ans qui souffre d'une maladie génétique qui nécessite des soins quotidiens très lourds. Et comme ces soins très lourds ne sont pas réalisés par une infirmière, la seule option qui s'est présentée à nous quand notre fils est né était que l'un de nous deux arrête de travailler. Donc avec mon épouse, nous avons fait le choix qu'elle s'arrêterait de travailler pour s'occuper de notre fils. Évidemment, en s'arrêtant de travailler, à part les 3 années de congé parental où elle a perçu un salaire, ensuite, elle n'a perçu qu'une indemnité, j'appelle ça une indemnité, et cette indemnité n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite. Donc, au-delà de la difficulté morale à assumer cette maladie, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que les trimestres non travaillés pendant ces 21 années rentrent bien sont validés? Ça, c'est ma première question. Et la question suivante qui en découle, c'est quelle sera la base de calcul du montant de la retraite de mon épouse quand elle fera valoir ses droits à la retraite?
Merci pour vos questions, Pascal. Je ne sais pas si on pourrait être très précis sur la dernière, mais enfin, en tout cas, on essaiera d'y répondre au mieux. Pour répondre à votre question et aux autres, bien sûr, jusqu'à 20h, Hélène Rossino est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, vous avez écrit « Aidant, c'est invisible », c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Ça va sortir aux éditions de l'Observatoire.
Non, c'est sorti début septembre.
Début septembre, autant pour moi. Olivier Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du collectif « Je t'aide ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à Pascal, au moins sur le début de la question, sur les trimestres non travaillés, validés ou pas? Ça existe ou pas? Allez-y, Olivier Maurice.
Alors, il se trouve que les aidants ont voté cette année auprès de notre association pour que la thématique de la mobilisation soit la précarité. Parce qu'ils sont très nombreux, comme notre interlocuteur, comme notre auditeur, à se demander quel sera leur statut plus tard quand ils auront une retraite et que cette retraite aura été amputée des trimestres cotisés. Parce que aujourd'hui, le salaire des aidants, c'est une précarisation à long terme. Quand on s'arrête de travailler...
Ça veut dire quoi, salaire des aidants? Me donnant des chiffres, ça veut dire quoi?
Alors, par salaire des aidants, je veux dire ce que la société leur donne en échange de toute l'aide qu'ils apportent.
C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est ça, je voulais une somme, c'est quoi? C'est 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est quoi?
Alors, pour l'instant, on a rien. On a simplement les aides qui sont touchées par le proche quand il est en situation de handicap ou de maladie liée à l'âge. Pour les autres aidants, on n'a rien du tout.
Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, sur la volonté effectivement du comptage de ces trimestres. Quand on est comme la femme de Pascal et que ça dure depuis 21 ans, est-ce que ça peut marcher de la même manière, Hélène Rossino, ou est-ce que c'est vraiment des cas d'école, ça, selon vous?
Pour moi, c'est l'exemple même d'une des vraies problématiques des aidants. Et de précarité, comme tu le disais Olivier, parce que cette femme va se retrouver au moment de la retraite amputée de 21 ans de 21 ans de retraite, alors qu'elle a rendu un service énorme à la société qui aurait pu être pris en charge par des professionnels.
Elle a fait économiser à la société
complètement. Elle a fait économiser. Elle a sacrifié sa propre vie professionnelle pour prendre soin de son enfant à la place d'un professionnel, à la place du système de santé.
On est d'accord que en l'état, si la femme de Pascal prenait sa retraite, c'est rien. Donc, En l'état. En l'état, c'est rien. Et évidemment que leur fils a 21 ans, j'imagine que cette situation va durer pendant encore des années. Ça fait une retraite en moins, un salaire en moins. Ça fait tout ça quand ces paroles-là sont remontées un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on entend, Hélène Rossino? Qu'est-ce qu'on dit?
On entend.
Parce qu'on a bien vu qu'il s'était passé un certain nombre de choses. On va parler de ce congé, mais on a l'impression que c'est un petit pas après l'autre, en fait.
C'est même un très 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 petit pas après l'autre. Ce qu'on entend très régulièrement, c'est ce fameux congé proche aidant de 3 mois. Et c'est 3 mois qui pourraient être pris en compte pour la retraite. Le reste du temps, rien. En tout cas pour l'instant.
Donc ça veut dire qu'on considère que l'aidant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là de manière ponctuelle sur une maladie ponctuelle au fond pendant ces 3 mois, mais on n'a pas envisagé du tout ce qui peut se passer sur la longue durée. Et très souvent, c'est sur la longue durée que ça se passe, Olivier Maurice, non?
Alors on est complètement dans le déni de l'évolution de la société, avec une avancée en âge, avec une chronicisation des maladies. Et on a très souvent dit aux aidants que l'aide qu'ils prodiguaient était naturelle, et que si effectivement l'acte d'amour et de bienveillance envers un proche est naturel, il y a un moment où aider n'est plus naturel, précarise sa situation, nous met en danger, touche à notre santé quand on est aidant, et là effectivement ça va trop loin. Et quand on voit tout le volume d'aide qui est prodigué par les aidants, on réalise qu'en fait c'est le socle, c'est la colonne vertébrale du système de soins en France, et que c'est une colonne vertébrale invisible.
On appelle ça l'hôpital invisible, effectivement. Je voudrais revenir sur ce congé un instant. Ça ne concerne que les aidants soutenant un proche âgé malade ou handicapé. Ça veut dire que ça enlève, vous diriez quoi? Ça enlève quel pourcentage des gens qui sont aidants? Parce qu'on a une espèce d'image d'Épinal qui dit on s'occupe de son vieux père ou de sa vieille mère. Pas du tout, c'est beaucoup plus large que ça, évidemment.
Alors ça enlève en particulier toutes les personnes qui accompagnent un proche atteint d'une maladie chronique. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, ce sont quand même les causes principales de mortalité aujourd'hui. Et puis les jeunes aidants ne sont absolument pas pris en compte dans cette partie non plus. Donc ça ne prend en compte, comme vous l'avez dit, que les aidants qui accompagnent le handicap et les personnes âgées. Donc c'est un premier pas pour eux et un oubli complet de toutes les autres situations.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
On vous écoute Nathalie.
J'ai 56 ans, je suis kinésithérapeute libérale depuis 35 ans et je me suis occupée de ma mère à domicile chez moi, donc jusqu'à l'âge de 98 ans l'année dernière. Elle a maintenant 99 ans, elle est placée depuis 13 mois en EHPAD parce que les troubles cognitifs et les moteurs étaient trop compliqués et je n'en pouvais plus. Et donc, en fait, le problème de...
Est-ce que vous êtes là?
Se pose, selon moi, sur différents niveaux, c'est-à-dire déjà un contexte familial. Quand il n'y a pas d'aide, mais qu'il y a plutôt des conflits, c'est déjà très lourd à supporter. Sur un contexte professionnel, par exemple, moi, je suis libérale, je ne peux pas m'arrêter 3 mois. Ce n'est pas possible. Je dois soutenir une activité continue, ce qui est tout à fait normal vu le contexte. Et par ailleurs, sur le plan financier, j'ai un revenu décent. Je ne me vois pas, à tort ou à raison, à avoir une rémunération pour ce que je fais. Parce que je peux m'en sortir, parce que je peux augmenter ma charge de travail professionnelle. Donc, j'ai des moyens, j'ai des appuis personnels pour rebondir. Par contre, avoir un vrai week-end, ça, j'aimerais. C'est-à-dire que là, même si elle est à l'EHPAD, j'y vais tous les midis pour la changer. J'y vais tous les week-ends pour la doucher, lui laver les cheveux, voilà, je m'en occupe. Et là, elle était malade, j'y passais 2 fois par jour. Donc, il est certain que sur des journées professionnelles de 12 heures, greffer ça en plus, c'est un épuisement, ça c'est certain.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, la dernière phrase, c'est un épuisement. Elle a dit aussi, j'ai fini par placer ma mère, j'imagine la mort dans l'âme, mais ça c'est le cas de tout le monde, évidemment, parce que je n'en pouvais plus. Et c'est des phrases qu'il faut savoir prononcer aussi, Hélène Rossino, quand on est aidant, savoir dire, je n'en peux plus, j'ai besoin de répit.
Tout à fait, mais... Pour moi, c'est aussi un problème d'en arriver à prononcer cette phrase-là.
Bien sûr.
Parce que, en général, les aidants vont voir leur médecin ou seulement au moment où ils craquent. Une grande partie renonce aux soins, ne prennent pas soin d'eux, ne prennent pas soin de leur santé, parce qu'ils sont aspirés dans le tourbillon de l'aide, parce que c'est une priorité pour eux de s'occuper de leurs proches et pas forcément d'eux-mêmes. Et on en arrive à des situations avec des aidants complètement épuisés, en burn-out, et avec une santé qui est complètement détériorée. Mais ce que je retiens aussi de ce qu'a dit madame, c'est que le congé proche aidant ne touche absolument pas les indépendants, qui sont les grands absents de toutes les mesures qui peuvent exister à ce sujet, et qu'il n'est pas fait non plus pour toutes les situations. Effectivement, tout le monde n'a pas besoin d'arrêter de travailler à temps plein ou même de prendre un mi-temps pour s'occuper de son proche. Donc ça reste un outil, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Mais par contre, les solutions de répit sont nécessaires pour tout le monde cette fois-ci.
Alors on va parler du répit. Moi, quand notre amie Nathalie dit qu'elle a besoin de temps en temps d'un vrai week-end, j'ai lu dans votre livre ce que les Canadiens appellent le baluchonnage, hein. C'est-à-dire que en gros quelqu'un vient au moins un week-end pour faire à votre place le travail que vous faites auprès de votre proche malade. Ça paraît être une idée simple. Au fond, non ?
Alors, c'est une idée très simple sur le papier. C'est beaucoup plus compliqué en France. On a une administration qui n'est pas d'une flexibilité exemplaire. Ça pose des questions même sur le droit du travail, parce qu'aujourd'hui, on nous répond immédiatement dès qu'on en parle. Oui, mais ça veut dire salarier quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne vous rendez pas compte, c'est compliqué. Alors, le baluchonnage vient d'Alzheimer, hein, sur le Québec. Nous, on essaye de l'étendre avec le relayage. C'est pour ça qu'on a changé de nom. À d'autres pathologies, ça marche très bien. Au Québec, c'est plutôt bien accepté et je trouve que c'est une très bonne solution.
Et par ailleurs, il y a aussi, Olivier Maurice, il y a des choses qui sont mises en place quand même. Il y a une maison du répit, notamment, qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. C'était par Brigitte Macron, si je ne me trompe pas.
Absolument.
C'était donc il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a qu'une ? Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres ? Comment ça fonctionne, une maison du répit ?
Alors, c'est la première du genre. Ouais. En revanche, il y a des différents dispositifs qui proposent du répit, que ce soit à domicile avec des personnes qui viennent prendre le relais de l'aidant, ou alors en établissement. Donc on a une multitude de dispositifs avec par contre une couverture géographique vraiment très disparate. On n'a pas du tout les mêmes dispositifs quand on est en Corrèze, quand on est à Lyon ou quand on est à Paris. Donc on a une fracture vraiment géographique qui rend l'épuisement de l'aidant encore plus difficile à traiter de manière globale. Pour rebondir sur le sujet de l'épuisement, il faut savoir que un quart des aidants consacrent 20 heures par semaine ou plus à s'occuper d'un proche. Donc évidemment, je vous laisse imaginer, quand on a une situation de conciliation entre une vie professionnelle et une vie d'aidant, c'est impossible à gérer. Et on en vient, malheureusement, pour un cinquième d'entre eux, à des situations proches des fois du burn-out.
Ah bah oui, et puis j'ai lu ça chez vous, 33% des travailleurs ont dû réduire leurs heures, 29% ont raté une promotion, évidemment une formation, une mission, 22% ont été obligés de prendre un congé de plus ou moins long terme, 20% sont passés d'un emploi à l'autre à temps partiel au fond, parce que ça finissait par être plus simple. 16% ont quitté leur emploi et 13% ont pris leur retraite plus tôt. Ça veut dire, en gros, soit on est dans, soit on a une carrière, mais les deux à la fois, Hélène Rossino, visiblement, ça ne marche pas. Ou en tout cas, c'est très compliqué.
C'est effectivement très compliqué. On a tendance, quand on est aidant, pourtant, à vouloir continuer à travailler. On entend énormément de la part de politiques en particulier que c'est le congé proche aidant et le fait de quitter son travail pour être aidant est forcément une bonne chose. Moi, ce que j'ai entendu de la part d'aidants sur le terrain, c'était plutôt que c'était une bouffée d'air
bien
frais
sûr.
D'aller au travail. Et que quand on me dit le congé proche aidant, tu vas voir, c'est du répit. Je dis, c'est quand même renvoyer les dents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être aidant. Donc c'est important, mais la conciliation avec le travail est quelque chose d'assez primordial pour les aidants que j'ai pu interroger.
Et justement, je voudrais qu'on écoute Christine là-dessus. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Donc moi, je téléphonais avant tout pour témoigner de mon expérience auprès de mon mari, qui est atteint de maladie de Charcot et que j'accompagne depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Ce que je voulais bien, je voulais mettre l'accent sur le fait que derrière chaque personne aidante, il y a un proche aidé. Et que la première chose, me semble-t-il, à prendre en considération, c'est l'accompagnement de ces personnes aidées. Je crois qu'une personne aidante ne doit en aucun cas venir combler les failles de l'accompagnement d'une personne aidée, de la personne qu'elle aide. Et ça, malheureusement, c'est pas, à mon avis, encore tout à fait au point en France.
Parce qu'on vous prend pour un auxiliaire, en gros, on vous prend pour un auxiliaire de soins, en gros, c'est ça l'idée.
Je crois qu'on fait partie du système. Et faut se méfier, parce que je comprends tout à fait qu'il faille, qu'on a besoin de formation. Moi-même, j'en ai eu besoin au début.
J'allais vous poser la question.
Pour la trachéotomie, mon mari est trachéotomisé. Je comprends tout à fait qu'on ait besoin de ces formations. Mais il faut prendre garde à ne pas nous installer dans ce rôle d'auxiliaire. Et juste, je voulais rebondir par rapport à ce que je viens d'entendre concernant les maisons de répit. Je crois effectivement que tout ce qui relève du répit est extrêmement important. Je connais très bien la maison de répit de Tassin, la demi-lune, pour l'avoir visitée et parce que j'habite à côté. Mmh. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le délégué général de France Répit il y a peu de temps. Je pense que ce sont des structures qui sont extrêmement importantes parce que, déjà, avant tout, on peut s'y rendre aidant et aidé, on peut s'y rendre ensemble, quelle que soit la personne que l'on est, que ce soit un enfant, un parent, un conjoint, mmh. Et ça peut aider à reconstruire un lien. Moi, je voudrais insister là-dessus, sur le fait que aider un proche, très souvent, empiète tellement sur le lien qu'on a avec cette personne on n'est plus qu'un soignant et on n'est plus un aimant. Et ça, c'est extrêmement important, c'est bien que des structures comme celle-là se mettent en place.
Et c'est bien de le dire, effectivement, parce qu'il y a un moment de basculement, probablement, où on passe de couple à aidant aidé. Christine, pardon, j'ai une question supplémentaire. Vous avez démissionné, autant que je sache, c'est ça, de votre travail ?
Il y a 2 ans, parce que je travaille à mi-temps comme AESH. Et il y a 2 ans, j'ai été obligée de démissionner de mon travail. J'ai demandé un congé proche aidant parce que nous n'avions plus d'aidante autour de mon mari, d'auxiliaire de vie, pour le coup. Je devais reconstruire une équipe autour de lui. Et j'ai été dans l'obligation de démissionner parce que le congé proche aidant n'existe pas quand on est contractuel de l'éducation nationale.
Voilà, comme dans d'autres métiers, visiblement, c'est terrible à dire, c'est rempli de tas d'exceptions et de gens qui ne rentrent jamais, hélas, dans des clous qui ont été fixés par l'administration. Merci beaucoup pour cette question, Christine, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues qui m'ont vraiment passionnée. D'abord, l'idée de, effectivement, on est intégré dans le système. Quand on parlait d'hôpital invisible, c'est vraiment ça. Ça veut dire que l'hôpital considère que les aidants, les proches, donc, sont des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, voire des infirmières, parce qu'on apprend à faire des gestes, là pour le coup on parle de la trachéotomie d'une maladie de Charcot, ce sont des gestes, de vrais gestes médicaux qui sont censés être ceux d'une infirmière, Hélène Rossineau, ou d'un médecin même.
Tout à fait, et le système fait tout pour favoriser ça aujourd'hui. Quand on regarde la Haute Autorité de Santé, elle a produit l'année dernière un algorithme pour aider les médecins à prescrire ou pas de l'hospitalisation à domicile. C'était censé être un outil vraiment d'accompagnement des professionnels de santé. Et un des prérequis dans cet algorithme, c'est présence d'un aidant. C'est-à-dire que l'hospitalisation à domicile n'est pas possible s'il n'y a pas d'aidant. C'est quand même mettre une énorme pression sur les épaules de ces aidants à qui on ne demande absolument pas de consentement. On a déjà tendance à oublier de les informer, mais on ne leur demande pas du tout leur consentement. Le système compte juste sur leur présence. Même chose sur l'ambulatoire. Si vous avez déjà été opéré en ambulatoire, vous savez qu'on vous dit il faudra que quelqu'un vienne vous chercher et soit avec vous au moins pendant 24 heures et vous ramène s'il y a le moindre souci. On ne se pose pas du tout la question de est-ce que ces aidants sont d'accord pour le faire, ont la capacité de le faire, physique ou mentale. Non, rien. On prend la décision à leur place.
Olivier Maurice, dans la question de Christine, il y avait aussi il ne faut pas nous installer. Je comprends très bien ce que ça peut vouloir dire. En effet, ça revient à ce que dit Hélène Rossineau. On fait comme si, de toute façon, il y avait un proche qui était là et qu'il était aidant. Voilà. Après, sinon, débrouillez-vous. En gros, c'est ça la question, la manière dont ça fonctionne.
Mais alors, c'est exactement ça. On est face à un vrai processus d'assignation des aidants. Et quand on sait que les aidants font à eux tout seuls 70% des actes de soins et d'accompagnement en France, il ne s'agit plus, pour citer Christine, de combler les failles de l'accompagnement, mais il s'agit de porter le système de soins à eux tout seuls et à elles toutes seules. C'est pas pour rien, à mon sens, que le premier auditeur a parlé de la démission de son épouse, puisque quand on compare les salaires en plus entre hommes et femmes, quand un choix doit être fait sur qui va aider, la femme gagnant statistiquement moins, c'est elle qui va s'arrêter, et donc on a, avec la situation des aidants, une véritable assignation de genre, et c'est majoritairement des femmes qui aident, ce n'est pas anodin.
Tiens, on va en écouter un d'homme qui aide aussi parce qu'il y en a. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
On vous écoute Patrick.
Écoutez, je voulais juste vous parler et poser une petite question. Je voulais vous parler de la réalité de ce qu'est un aidant. Ma femme et moi-même avons un enfant unique qui est une jeune femme de 28 ans, autiste sévère, aucune autonomie, elle ne parle pas. Pendant 22 ans, nuit et jour, nous avons dû la prendre en charge. Aujourd'hui, donc, elle est dans une institution, mais elle revient à la maison, par exemple. Alors, nous parlons, elle est là, elle est ici, elle passe aussi tous ses week-ends. Ce que je voudrais, c'est que les gens puissent se rendre compte que la vie de chacun de nous deux, de ma femme et de moi-même, n'existe qu'à travers notre fille. À titre d'exemple, on ne part plus jamais en vacances ensemble. Mmh. Quand il y en a un qui part, l'autre reste, et vice-versa. Et on ne peut rien faire d'autre que de s'occuper de notre fille. On ne peut même pas écouter la radio ni France Inter parce qu'elle fait tellement de bruit qu'on ne peut même pas écouter la radio. C'est une prise en charge permanente, absolument inimaginable, et dans une absolue, dans une totale abandon de tout et de tout le monde. C'est-à-dire que rien ni personne ne nous a jamais aidés, rien ni personne n'a jamais pris en compte le travail inimaginable et impensable, et nous avons l'habitude de dire « seul ». Les gens qui vivent ce que nous vivons peuvent comprendre. Et est-ce que, ma question est très courte. Figurez-vous que je vieillis et que je me demande si physiquement je pourrai encore tenir très longtemps et que va-t-il se passer quand mon âge ne me permettra plus de soulever ma fille, par exemple.
Et c'est une excellente question, Patrick. Merci beaucoup. Avant qu'on essaye de répondre à votre question, j'en ai une subsidiaire. Est-ce que si ça existait, parce que y a cette forme de culpabilité aussi chez les aidants, hein, qui ont fait bien comprendre que effectivement, de toute façon, ils sont seuls à pouvoir régler ces situations-là. Si on vous l'offrait, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un reste avec votre fille pour pouvoir enfin passer des vacances avec votre femme, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que, si ça existait, vous prendriez réellement? Parce que ce serait un vrai bol d'air pour vous deux, en fait. Si ça existait, est-ce que vous le prendriez ?
Certainement. La seule condition, c'est qu'il faudrait qu'il s'agisse d'une personne compétente. Mais si on m'offrait la présence d'une personne compétente qui sait ce que c'est que l'autisme, bien sûr, on sauterait dessus à pied de joie.
Merci beaucoup, Patrick. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Patrick ? Hélène Rossino, il a raison de le dire. Souvent, seuls les gens qui sont confrontés à ce genre de situation savent exactement ce que ça veut dire. C'est pour ça peut-être que ce fameux congé maladie est si peu conforme, on va dire, à toutes les situations dont on en entend beaucoup ce soir.
Tout à fait. Je peux dire que c'est une des questions que j'ai entendues le plus en parlant avec des aidants. Et qu'est-ce qui se passera après ? Beaucoup sont terrifiés à l'idée de leur propre fin et de laisser leur enfant, le patient, une fois qu'ils seront eux-mêmes décédés ou qu'ils n'auront plus la force de s'en occuper. Il n'y a malheureusement pas de réponse type là-dessus.
J'ai lu un chiffre terrifiant, c'est dans votre livre, je crois, que est-ce que c'est un tiers des aidants qui meurent au fond avant la personne qu'ils aident ? Enfin, c'était un chiffre extrêmement important quand on parle évidemment de personnes âgées.
Oui, c'est un chiffre qu'on retrouve assez souvent et qui n'est pas étonnant du tout. On voit des personnes âgées complètement exténuées, vidées de leurs forces, qui ne se nourrissent pas forcément correctement, qui ne dorment plus parce qu'elles prennent soin
eux,
exactement,
en fait, hein.
Qui ne prennent plus soin d'eux-mêmes parce qu'ils prennent soin de leurs proches. Mais moi, le cas de ce monsieur me fait penser à cette jeune femme dont je parle dans mon livre, qui ne pourra pas avoir d'enfant parce qu'elle a fait le choix d'avoir sa maman à domicile. Et elle a 40 et quelques années. Elle sait très bien que c'était ses dernières années pour faire un enfant, mais elle prend tellement de
41,
temps avec son papa. Exactement. Elle prend tellement de temps à s'occuper de son papa qu'il est impensable pour leur couple, malheureusement, de rajouter un nouveau-né au milieu de tout ça. La maman se sent extrêmement coupable. Et bien entendu, le couple est très malheureux de cette situation.
Olivier Maurice, un peu moins dans le chiffre que j'ai cité tout à l'heure. Je vous ai vu faire un signe, et tant mieux, dites-le, parce que c'est un peu effrayant, en fait.
Moi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de pincettes, puisqu'il s'agit surtout de chiffres qui portent sur des binômes aidants aidés.
Un tiers chez les personnes âgées, me dit-on, l'instant dans l'oreille.
Mais oui, bon, voilà c'est des chiffres qu'on a, seulement il est très difficile d'établir une corrélation entre l'aide et le décès d'une personne, s'agissant par exemple d'un couple de deux personnes âgées. On peut très bien être aidant et décédé d'autre chose. En revanche, il est certain qu'il y a un impact très, très important sur la santé quand on aide et quand on est dans une situation dite à charge lourde. On a 8 fois plus de cas de dépression chez les aidants dits à charge lourde. C'est les fameux qui s'occupent d'un proche plus de 20 heures.
Dépression, burn-out, etc. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
On vous écoute, Anaïs.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Anaïs Martinez et je suis la sœur d'un petit garçon qui est handicapé, qui a le syndrome de Prader-Willi. Et voilà, je voulais témoigner à l'antenne pour... ça m'a vraiment frappé ce qu'a dit l'auditeur juste avant. C'est qu'on ne peut pas comprendre si on n'est pas avec la personne 24 heures sur 24 et toute une année. Et c'est vraiment ça ce qu'on se dit, c'est qu'on n'est que des petits groupes de personnes et c'est vraiment inimaginable. Et c'est le ressenti de cette personne, moi je le ressens très bien même en tant que sœur. et que c'est ma mère qui m'a parlé de ce mot aidant. Et moi, je me considérais pas comme une aidante jusqu'à ce qu'elle m'en parle, notamment avec la rencontre avec justement Hélène Rossino. Et on s'est rendu compte qu'on est beaucoup plus aidant qu'on ne le croit, en fait. Et c'est dingue à quel niveau le handicap ou une personne fragilisée impacte en fait toute la cellule familiale, et pas que les parents ou les proches directs, mais il y a aussi les frères et sœurs, et des fois ça on oublie en fait.
Et ça veut dire que vous êtes tous aidants dans la famille, et depuis que vous êtes toute jeune aussi, ça veut dire ça, Anaïs, ce qui fait une drôle d'enfance au fond, non?
C'est ça, c'est que en fait moi mon petit frère il est né quand j'avais 10 ans, donc il a 10 ans aujourd'hui, et que on a été, ma mère a passé toutes les journées pour gérer mon petit frère, et qu'on était voilà tout seul à gérer, donc on était des fois avec les grands-mères, mais on a toujours été, elle nous suivait de loin, vous voyez, et elle, même si elle se dédiait à nous, elle était triste, elle était fatiguée, elle devait gérer les problèmes de santé de mon frère, et on a toujours été on a été mature très vite parce qu'on a dû gérer un peu seul, même si nos parents s'occupaient de nous, parce qu'on est les enfants aussi. Mais il y a une telle demande d'aide que nous, on a dû se gérer tout seul de fait, en fait.
Anaïs, qu'est-ce qui va se passer? Pardon de vous poser la question comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous savez déjà que, de toute façon, vous prendrez la succession de votre mère? Que vous vous occuperez de votre frère?
Je ne sais pas comment ça va se passer. Ma mère, c'est vraiment une question qu'elle a pris en charge dès le début. Même là, elle se renseigne au niveau même juridique sur comment ça va se passer. Parce que justement, il y a la maison des répits. Mais est-ce que c'est adapté à notre frère? Est-ce que nous, on a envie qu'il reste loin de nous? C'est vraiment une vraie question. Parce que voilà, comme on en parle, au sein du foyer, ça démantèle tellement de choses au niveau du couple, au niveau de la famille. Est-ce que nous, les frères, parce que j'ai un autre frère aussi qui a 17 ans, est-ce que nous, on pourra accueillir mon petit frère en situation d'handicap? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on est apte à faire ça? Est-ce que c'est une question qu'on va réfléchir dessus, et on espère qu'il y aura des structures pour nous aider.
Est-ce que vous vous posez la question, vous, par exemple, Anaïs, vous faites des études, j'imagine, il ne faut pas que je les fasse trop loin, votre frère, c'est pareil, on ne va pas aller trop loin, parce que du coup, on ne peut pas rentrer plus, aussi vite qu'on le voudrait, on va plutôt faire des études courtes, parce que ce sera peut-être plus facile. Est-ce que, du coup, déjà, cette question-là, elle s'est posée? Vous avez fait déjà, vous, à votre très jeune âge, des choix de ce genre?
Moi, c'est vrai que des fois, je me sens un peu coupable, par exemple, de partir en vacances parce que mes parents sont épuisés psychologiquement et physiquement, et que je reste toujours en lien et je soutiens, surtout on est avec ma mère, on se parle beaucoup. Et quand il se passe des choses, par exemple, mon frère a beaucoup fugué cet été, je n'étais pas là. Et je me suis sentie coupable, en fait, de ne pas être là, de ne pas avoir pu l'aider. Et on ne sait pas, en fait, ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que, voilà, le handicap, dans toutes ses modalités, est-ce qu'on va avoir des structures qui vont être adaptées à mon petit frère? Parce que mon petit frère est accueilli une fois par mois. On a réussi cette année dans une maison du répit à Paris. Et on a ce moment-là. Mais est-ce qu'il y aura des appartements médicalisés dédiés? Parce qu'il n'y a pas qu'un handicap. Il y a différentes personnalités, il y a différents handicaps. Et est-ce qu'il y aura des structures adaptées pour l'handicap de mon petit frère? Et ça, c'est que l'avenir qui nous dira, quoi.
Merci beaucoup, merci mille fois, Anaïs, pour ce témoignage, vraiment formidable témoignage d'Anaïs et Hélène Rossino, parce que évidemment, c'est toute la famille qui est embarquée aussi. Et j'entends la culpabilité d'Anaïs, j'entends des questionnements qui ont lieu. J'imagine sa mère qui lui dit « ne t'inquiète pas, pars en vacances ». Tout ça doit être effroyablement compliqué.
Tout à fait. Et si des professionnels de santé ou des enseignants, que ce soit primaire, collège, lycée ou université, écoutent cette émission...
Bah, des enseignants, il y en a. Ouais.
mais j'insiste aussi sur les professionnels de santé. Je vous en prie, écoutez ce témoignage, c'était vraiment très important. N'oubliez pas les enfants qui sont dans la pièce quand vous voyez un patient, quand vous donnez un diagnostic grave, quand vous soignez un patient avec un handicap ou une maladie chronique. Demandez s'il y a des enfants. Faites attention aux enfants. Informez les enfants et ne les laissez pas dans ces situations complètement seules, parce qu'on le voit encore trop souvent, les jeunes aidants sont complètement invisibilisés. C'est la même chose hein, pour les enseignants. Ils ne sont pas ni formés ni sensibilisés à la question. J'ai vu une infirmière scolaire l'autre jour qui n'avait jamais entendu parler du terme « jeune aidant ». On part quand même de très très loin. Ces enfants sont très nombreux et ce sont des situations qui brisent le cœur parce qu'on les laisse vraiment gérer tout seul. Et la culpabilité, comme Anaïs le dit très bien, est en plus, d'autant plus important que ces jeunes devraient penser à leur avenir et ne pas se sentir mal parce qu'ils ne savent pas comment prendre en charge un frère, une sœur ou même un parent.
Olivier Maurice.
Alors, c'est vrai que c'est très riche d'avoir le témoignage d'une personne jeune puisque s'il y a des invisibles parmi les invisibles, c'est vraiment les jeunes aidants qu'on estime à 500 000 ou 1 million de jeunes aujourd'hui en France. On a la chance dans notre collectif Je t'aide d'avoir une association, JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui milite pour leur reconnaissance et qui fait un travail formidable. Donc n'hésitez pas à vous adresser à elle. Et on sent tellement de maturité dans les propos d'Anaïs que c'est
bah, comme elle le dit, ils ont grandi plus vite, hein, ces gamins-là.
Effectivement, c'est ce qu'on reconnaît chez tous les jeunes aidants. On entend aussi une phrase qu'on entend chez les adultes, qu'on ne peut pas comprendre si ne vit pas ça. C'est très juste, mais en même temps, toutes les situations d'aide ont ceci de commun, qu'elles sont singulières, uniques, et pour autant qu'elles forment une base vécue partagée par ces 11 millions de personnes. Et que c'est pour ça qu'il est important de médiatiser ces 11 millions de personnes, parce que Fabienne, vous l'avez dit en introduction, ça peut être ma mère, ça peut être mon frère, ça peut être ma sœur, ça peut être mon voisin, ça peut être moi plus tard.
Et j'ai surtout lu que 63% des aidants ignorent qu'ils le sont en réalité, parce qu'effectivement, on ne met pas des mots, on ne met pas forcément de mots sur ce qu'on est en train de faire, ou quand on imagine qu'il n'y a pas quelque chose de médicalement très lourd à faire, alors on considère que non, c'est pas exactement ça, alors que oui. Justement là-dessus, moi je voulais savoir comment on est formé quand on est aidant de quelqu'un qui a une pathologie un peu lourde, on est formé comment et par qui en fait ?
Si tant est qu'on soit formé, on peut être formé via de l'éducation thérapeutique, mais ce sera l'éducation thérapeutique du patient dans lequel l'aidant est plutôt toléré qu'autre chose. Après, les associations font un travail formidable sur le terrain, en tout cas certaines, qui permettent parfois de former aux gestes. On retrouve des professionnels de santé, surtout libéraux, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent au domicile du patient pour apprendre les gestes, mais ça reste vraiment très limité, malheureusement.
Marie-Paul, bonsoir, ça fait 14 minutes que vous attendez, pardon.
C'est pas grave, merci de prendre mon appel. Moi, je voulais témoigner parce que je suis maman d'un autiste que j'accompagne depuis 17 ans toute seule. Son papa est décédé alors qu'il avait 3 mois, il s'est suicidé. Et je suis restée seule avec mon fils et ma fille qui était son aînée de 7 ans. Et depuis 17 ans, je suis toujours toute seule et je mène le combat pour accompagner mon fils autiste. J'ai découvert sa maladie au fur et à mesure. Il a été diagnostiqué tardivement, mais j'ai pas attendu. J'ai pris tout ce qu'on me proposait pour le faire avancer avec les prestataires extérieurs, psycho, etc. Aujourd'hui, je suis dans un état d'épuisement total. Je suis en burn-out. Je suis en arrêt régulièrement. Je ne peux pas me construire professionnellement. J'ai été obligée de remettre en question plein de fois ma fonction professionnelle alors que je suis une vraie bosseuse. Et heureusement, parce que ça m'a permis d'accompagner mon fils en parallèle. Là, je suis en ce moment sur le palier de la pré-professionnalisation. Mon fils a malgré tout suivi un cursus scolaire où il a fallu se battre, mais pas en frappant à la porte, mais avec une tête de bélier à chaque fois pour qu'on m'ouvre les portes. J'y suis encore aujourd'hui. J'ai trouvé tout un... faute de moyens, j'ai amené sur un plateau un projet individualisé pour mon fils dans un lycée pour qu'il puisse continuer. Il est pris dans une entreprise avec un directeur d'entreprise exceptionnel qui lui ouvre les portes de l'entreprise tous les vendredis matin.
Marie-Paul, vous êtes en train de me parler de votre fils. Et c'est drôle parce que c'est de vous dont on a envie que vous nous parliez aussi. Et je trouve ça très symptomatique au fond de s'oublier en fait dans cette démarche-là.
Moi, je voulais revenir sur cette idée des dents, justement. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une confusion. Pour moi, un aidant, c'est quelqu'un qui est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la personne. Tous ceux qui interviennent après, je ne peux pas les nommer aidants. Je les nomme des intervenants. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu créer une association à un moment pour proposer du répit sur la base du baluchonnage du Québec. Et j'ai eu des refus partout. Du coup, j'ai pas pu continuer cette association. Le congé, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est dans notre quotidien qu'on a besoin de répit. Le répit, c'est de pouvoir se claquer la porte et aller sans être soucieux de ce qui va se passer à domicile.
S'occuper
de soi. La formation
soi,
doit être à tous les niveaux. Et je rejoins le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Il faut professionnaliser les gens qui prennent le relais, qui prennent notre relais, parce que j'ai eu des intervenants à domicile et j'ai vu de tout.
Merci beaucoup Marie-Paul pour ce témoignage. Merci vraiment Olivier Maurice, vous avez levé le doigt, c'est bien.
Oui, alors, encore une fois, j'aurais plein de remarques à faire, mais j'en ai juste deux. Je vais synthétiser.
Oui, parce que vous avez 30 secondes, pardon. Allez-y.
Oui. Alors déjà, ne pas se construire professionnellement, il faut voir que c'est une vraie perte pour la société. Mmh. La société décide, en assignant les aidants, de s'asseoir sur les compétences de tellement de personnes qui pourraient travailler. Ensuite, sur la question du baluchonnage, je trouve ça scandaleux qu'en France, on se dise qu'il est impossible de salarier quelqu'un pour faire ce que les aidants font bénévolement. D'un seul coup, quand on a un statut de salarié, c'est scandaleux de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et effectivement, ça l'est. Mais ne soyons pas hypocrites. Les aidants, pour certains d'entre eux, travaillent concrètement. Ils font des tâches relevant du travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on décide de les ignorer.
Je voudrais saluer nos deux éditeurs qu'on n'a pas le temps de prendre, mais Sylvain nous dit qu'il n'aime pas le mot aidant, qu'il préfère le mot accompagnant, et chacun le vit comme il l'entend. Sylvain, merci beaucoup. Et ce témoignage que je vous livre comme ça, ce sera le mot de la fin, qui est ce côté surréaliste. En fait, mon père a l'Alzheimer, ma mère a cassé sa jambe et elle est sourde, donc les aidants doivent être aidés. Et là, on est en train de tourner en rond, en fait. Merci en tout cas beaucoup, merci à tous pour vos nombreux appels.
Merci,
merci d'avoir participé à cette émission et pour ces témoignages nécessaires.